Encore la faute au pétrole. Que s'est-il passé pour que l'inflation augmente en même temps que le taux de chômage? Premièrement, la stagflation décrite par les économistes se base essentiellement sur ce qui s'est passé aux États-Unis, même s'il est vrai que le phénomène a été observé dans une certaine mesure dans d'autres pays riches. Avez-vous entendu parler des chocs pétroliers de 1973 et de 1979? En 1973, le prix du baril passe de 2,80 $ à 10 $ et la consommation mondiale chute de 55,6 millions de barils par jour à 54,4 millions en l'espace de 2 ans. Même sentence en 1979. Le prix grimpe de 15,6 à 20,6 $ et la consommation chute de 64 à 58 millions de barils par jour en 4 ans. De plus, les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole à l'époque, atteignent leur pic de production en 1971. Alors que la croissance économique du pays nécessite toujours plus de pétrole, les États-Unis sont obligés pour la première fois d'importer des barils. Or, rappelez-vous comment se calcule le PIB. Les exportations s'y ajoutent tandis que les importations s'y soustraient. Je traduis. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus d'importations égale moins de PIB. N'y a-t-il pas là tous les éléments de la stagflation? Une ressource centrale à l'activité économique qui prend de la valeur, ce qui provoque une augmentation des prix dans tous les secteurs qui en dépendent, donc inflation généralisée. Il en résulte une consommation moins abondante de pétrole, ce qui provoque une réduction de l'activité économique, donc du chômage. Pourtant, la plupart des économistes nient presque systématiquement le lien de causalité existant depuis la consommation d'énergie, donc le pétrole, vers l'activité économique. Pour eux, c'est toujours l'activité économique qui contraint la consommation d'énergie et jamais l'inverse. Cette croyance induit de magnifiques modèles mathématiques absolument irréalistes, dans lesquels les travailleurs peuvent allègrement se substituer aux machines. Cela aboutit à des théorèmes incroyables, tels que celui du cost share. Conclusion, l'inflation et les ralentissements économiques, donc le chômage, s'expliquent aussi par la rareté et la cherté des matières premières, notamment quand elles sont aussi utilisées que le pétrole. Mais il existe un autre facteur qui peut expliquer la situation de stagflation des années 1970. Une autre lecture de l'inflation des années 1970. Nous avons vu que, par le biais des chocs pétroliers, la période de forte inflation des années 1970 peut trouver sa cause dans un processus qui n'a absolument rien à voir, mais franchement vraiment rien, avec le financement d'un déficit public par la création monétaire. Mais il existe une autre manière d'expliquer l'inflation de cette période. Au début des années 1970, les taux de chômage dans tous les pays développés sont très faibles, autour de 3% aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, et à moins de 1% en Allemagne de l'Ouest. Nous sommes à la fin des Trente Glorieuses et les pays développés sont au plein emploi. Tout en sachant que les femmes travaillent peu à cette époque, on est donc sur un vrai faux plein emploi. Au sein des entreprises, les travailleurs sont davantage syndiqués qu'aujourd'hui, ce qui leur offre un pouvoir de négociation relativement fort. Pour les entreprises, recruter de nouveaux employés est une tâche compliquée. Dans un monde où le chômage n'existe pas, les travailleurs n'hésitent pas à refuser une offre d'emploi, voire à démissionner si les conditions de travail et le salaire ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. De plus, avant la dérégulation financière induite par les politiques de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis, les capitaux circulent peu. Les accords de Bretton Woods, qui réglementent les échanges internationaux, permettent aux États de contrôler leur taux de change ainsi que les flux monétaires entrant ou sortant du pays. On parle de contrôle des capitaux. Cela signifie que les entreprises sont plus ou moins contraintes d'investir dans leur pays d'origine. Autrement dit, les entreprises ne peuvent pas délocaliser la production et compter sur la main-d'œuvre bon marché d'un pays moins développé. sans possibilité de délocalisation et face à un taux de chômage extrêmement faible, le chantage à l'emploi qui permet de baisser les salaires est impossible. En revanche, le chantage à la hausse des salaires de la part des travailleurs est tout à fait possible. Et c'est justement ce qui se passe. Les travailleurs organisent des grèves et obtiennent des hausses de salaire. Dans de telles conditions, comment les entreprises peuvent-elles protéger leurs marges, leurs bénéfices? La réponse est simple. Si les travailleurs demandent des hausses de salaire qui réduisent les marges, les entreprises répondent par des hausses de prix afin de les préserver. Or, constatant que ces hausses de prix ont annulé l'effet de la hausse des salaires, les travailleurs demandent immédiatement des hausses de salaire supplémentaires. Et les entreprises réagissent à nouveau en augmentant les prix. Ainsi démarre la spirale inflationniste. Voici donc une autre histoire de l'inflation des années 1970. En plus des chocs pétroliers, celle-ci s'explique par un rapport de force égalitaire entre actionnaires capables d'augmenter les prix et travailleurs capables de faire pression pour obtenir plus de salaire. Dans ce scénario, même si la création monétaire reste indispensable pour permettre aux échanges de continuer à avoir lieu en plus grand nombre, croissance du PIB, et à des prix plus élevés, inflation, celle-ci n'est pas la cause de l'inflation. Ce sont plutôt les agents économiques qui, parce qu'ils demandent des crédits bancaires, création monétaire, en accord avec la hausse des prix et celle des revenus, déclenchent un phénomène d'ajout de monnaie dans le système. L'inflation cause l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation étant traitée, comment expliquer, sans passer par la crise pétrolière, le ralentissement économique des années 1970? On pourrait très bien faire porter le chapeau à un découragement des financeurs de dépenses, les investisseurs. En effet, avec une inflation importante et des travailleurs qui obtiennent toujours les augmentations de salaire qu'ils souhaitent, l'activité de financement est peu rentable. L'inflation mange les intérêts et les hausses de salaire mangent les marges qui forment les dividendes des actionnaires. Découragés, les capitalistes décident de moins financer les dépenses, ce qui provoque un ralentissement économique et donc du chômage, alors même que l'inflation reste élevée. Au fur et à mesure que le taux de chômage augmente, le pouvoir de négociation des travailleurs diminue, ce qui finit par stopper l'inflation. On récapitule sur la variation des prix. Pour conclure, la variation du niveau des prix, inflation ou déflation, est un phénomène qu'aucun modèle économique ne sait réellement expliquer. Pourquoi les entreprises choisissent-elles d'augmenter ou de diminuer leurs prix? Pourquoi les acteurs des marchés financiers choisissent-ils de parier sur une devise plutôt que sur une autre? Les réponses sont multiples et complexes. Tout dépend de la situation. Ce qui est certain, c'est que si la création monétaire peut provoquer de l'inflation dans des cas extrêmes, comme celui de l'hyperinflation allemande, il ne faut pas chercher à accuser systématiquement ni l'État, ni la Banque centrale. En effet, parce que les banques de dépôt possèdent aussi le pouvoir de faire des promesses utilisables comme de la monnaie, le financement par ces dernières des déficits de tous les agents économiques, particuliers, entreprises et États, est susceptible de générer un trop-plein de monnaie. Cela dit, l'expérience nous montre que cela risque davantage de dégénérer en bulle spéculative, marché de l'occasion, plutôt qu'en inflation débordante, marché du neuf. De la même manière, un manque de monnaie est susceptible de provoquer une baisse des prix, situation beaucoup plus grave que l'inflation. L'inflation peut aussi venir d'un déséquilibre entre besoin de faire venir des richesses depuis l'étranger, importation, et production de richesses dans le pays, PIB. Un rapport de force équilibré entre travailleurs et entreprises peut aussi provoquer de l'inflation, ce qui est un excellent signe puisque cela est associé à une situation de plein emploi. L'inflation peut aussi être provoquée par une augmentation des prix d'une matière première indispensable, comme le pétrole. Dans l'ensemble, l'inflation ou la déflation ne doit pas être perçue comme ce qui provoque les crises, mais plutôt comme un indicateur de la situation économique dans laquelle un pays se trouve. Lorsque l'inflation est faible, voire tend vers la déflation, la croissance du PIB est souvent faible aussi. Lorsque l'inflation dégénère en hyperinflation, la vie devient effectivement insupportable, mais cela est une conséquence extrême d'une économie déjà très fragile, pauvre, déséquilibrée, plus capable d'exporter et souvent complètement dépendante des importations.